Bonjour, aujourd'hui tous les lacs sont calmes. Tout d'abord le lac de Mora, le temps est nuageux, il n'y a pas de vent, la température de l'eau 21 degrés, température de l'air 18 degrés. Lac de Bienne, couvert, la température de l'eau 18 degrés et demi, la température de l'air 18 degrés et demi, un léger vent du sud-est, force 2. Au lac de Neuchâtel, à Neuchâtel, il fait couvert, il n'y a pas de vent non plus, température de l'eau 20 degrés, température de l'air 17 degrés. À Yverdon, c'est légèrement couvert, pas de vent, 19 degrés et demi pour la température de l'eau, 14 degrés pour celle de l'air. Le lac de Joux, au Sentier, il fait beau, quelques nuages, pas de vent non plus, température de l'eau 18 degrés, celle de l'air 17 degrés. Sur le Léman à Genève, il fait du soleil, il n'y a pas de vent, la température de l'eau est de 19 degrés, celle de l'air de 18 degrés. À Lausanne, quelques nuages, pas de vent non plus, 22 degrés pour la température de l'eau, 20 degrés pour la température de l'air. Au Bouvray, enfin, c'est nuageux, il y a une légère vaux d'air, force 1, la température de l'eau est de 21 degrés, la température de l'air de 18 degrés. Maintenant, la météo que nous promet Cointrin, dans la journée assez ensoleillée, et dans la deuxième partie de l'après-midi, orageux le long du Jura, avec peut-être quelques rafales.
Merci Eric. Les prochaines informations à 10h sur le premier programme et à 13h sur le deuxième programme.
Merci Michel Eman. Pour moi, le temps de tranquilliser le gagnant de notre concours, c'est-à-dire de combien de kilomètres est longue la frontière entre le Jura et la France. Ça y est, on l'a deviné, 115 kilomètres. J'espère que personne nous contredira. Est-ce que vous connaissez, Monsieur Guenat, les bords du Doubs qui longent justement la frontière française et qui donnent cette longueur?
Oh oui, on la connaît très bien. C'est une rare rivière de notre canton. Je crois que tous les Jurassiens connaissent ces frontières naturelles.
Merci. Alors voyons, qui est le gagnant? C'est Monsieur Daniel Elias, 1343 Les Chardonnières, et il recevra, comme promis, la 7e corbeille offerte par l'Office du tourisme jurassien avec un abonnement de 6 mois au journal Le Pays. Comme ça, il pourra mieux compléter ses connaissances historiques et géographiques du canton du Jura. Et puis, il y aura d'autres choses offertes par des maisons locales. Voilà, je vous invite à écouter Yves Montand, Le Simple Jardinier.
Je suis un simple jardinier qui n'a rien à vous raconter de bien malin. Je ne suis pas un beau parleur, on ne fait pas la cour aux fleurs, mais le jardin. On n'a pas besoin d'être beau, on n'a même pas besoin de mots, mais de penser. Pour cueillir quand elles sont écloses, les marguerites et les roses au cœur grisé. Je suis un simple jardinier et de plus modeste métier, je n'en connais point. De plus joli, je n'en connais guère. Pourtant, il y a une pierre dans mon jardin. Ma femme a un cœur d'artichaut, j'ai des marmots plus qu'il n'en faut pour être heureux. Aussi dans mes fleurs, dans mes roses, si vous y trouvez quelque chose, gardez-le.
Eh bien, un petit moment bien romantique avec Yves Montand, Mousse Boulanger. À vous de poursuivre la conversation à bâton rompu avec François Guenat. Bonjour. Non pas à propos des oiseaux, mais peut-être à propos d'autres choses.
Ben oui, puisqu'on va rester un petit peu dans le domaine romantique, on va rester dans les herbes, dans les fleurs, pour parler d'un herbier qui est une collection assez extraordinaire.
Et comme nous l'avons dit précédemment, Thurman, s'intéressant aux cailloux, il a fatalement fait la part des choses en disant sur tel ou tel terrain, il doit y avoir une flore particulière. Il a réussi à trouver la relation qu'il y avait avec le sous-sol et la végétation, ce qui lui a permis de collectionner des plantes, de les sécher, d'élaborer un herbier. Cet herbier a fait des petits. Et tous ses collaborateurs, puis les descendants ou les successeurs des enseignants au lycée cantonal ont laissé des herbiers considérables, puisqu'on dénote aujourd'hui, je pense, l'inventaire n'est pas totalement terminé, de l'ordre de 20 à 30 000 plantes au minimum. On peut citer des gens comme Ducommun, comme Ducret, comme Coby, qui était plus tard... paléontologiste et à la fois recteur de l'école cantonale et éminent botaniste, enfin, qui a laissé sa collection également dans l'ensemble de cet herbier que nous sommes en train de dépoussiérer, et fort heureusement, les plantes sont en bon état. Alors, on y découvre une flore qui n'existe pratiquement plus dans certaines régions. Thurman a décrit, par exemple, la polygale des calcaires, décrite dans un endroit de Porrentruy, on ne la trouve absolument pas. Il y a une décharge, et puis cette zone a complètement été changée. On a encore quelques stations du côté de Courtemèche, mais relativement modeste par rapport à ce que Thurman semble avoir décrit à l'époque.
Et ça veut dire que ce ne sont des plantes qui ne poussent que dans le Jura, sont dans cet herbier, non ?
Il y a des plantes du Jura, ça c'est Thurman, en relation avec ses études sur le sous-sol jurassien, mais il avait énormément d'amis, de collaborateurs qui lui envoyaient des plantes tropicales, des plantes de la région d'Italie. Ducret a ramassé pas mal de plantes dans la région de la Haute-Savoie, par exemple. C'est très, très composite, enfin, il y a énormément d'origines, mais dans tout cet amas de plantes, on va découvrir, je pense, un jour, établir les cartes de la végétation de l'époque, pourquoi pas.
Comment est-ce que c'est conservé ?
Ça a été conservé dans un herbier classique traditionnel, dans des chemises en papier buvard, entre deux cartons, serré avec des sangles, et puis c'est resté comme ça, je pense, pendant un siècle passé. Voilà, dans quel état on l'a retrouvé, et puis maintenant on les dénude, on en prend des échantillons, on les met sur des papiers neufs avec des numéros neufs étiquetés, numérotés, et puis peut-être qu'un jour on utilisera l'informatique pour s'en sortir.
Ça aussi, vous allez l'exposer, vous allez le montrer au public ?
Je pense qu'on pourra, par exemple, faire une exposition thématique sur telle ou telle famille et présenter des originaux. Thurman avait découvert, comme bien d'autres après lui jusqu'au début du siècle, le Marsilia quadrifolia, par exemple, une petite fougère aquatique, vous êtes en de bon folle. Et nous en détenons maintenant une sorte de tableau séché en référence et en mémoire à Thurman. Eh bien, nous en présenterons quelques-unes de ces plantes en témoignage à Thurman. Et puis, dans la thématique, on utilisera évidemment les plantes séchées pour les présenter au public. Mais je crois que c'est pas aussi spectaculaire que bien d'autres pièces, par exemple. Ça a plutôt une importance scientifique que de démonstration.
Ces étangs de Bonfol, ils existent toujours. Est-ce qu'ils sont encore actuellement des petits microclimats et surtout des microcosmes où l'on trouve des quantités de plantes et d'insectes qu'on ne trouve nulle part ailleurs ?
Les étangs de Bonfol, comme bien d'autres réserves dans le canton, sont des endroits extrêmement intéressants. Et les étangs de Bonfol sont essentiellement des réserves. C'est une réserve naturelle végétale, essentiellement. La chasse y est autorisée, ou y était, jusqu'à ces dernières années. Et de ce fait, c'est une preuve qu'on y trouve des espèces intéressantes. Je pense ici au riz, à la lèche en forme de riz, l'Oryza oryzoides, par exemple, qui est aussi une rareté. Malheureusement, les espèces décrites par Thurman ont disparu aujourd'hui, dans le Marsilia, entre autres.
Il y en a de nouvelles qui ont apparu.
Ah oui, c'est étonnant. Pour quitter Bonfol, prenons le cas de la place d'armes de Bure, où les chars d'assaut y ont créé des fossés pleins d'eau. Personne n'a replanté ces fossés. Mais on retrouve aujourd'hui des flores, de la flore marécageuse en abondance. Et les oiseaux s'arrêtent.
Il y a encore un végétal, est-ce qu'on peut appeler ça un végétal, mais je pense oui, qui est le champignon, qui est très courant dans les forêts du Jura, et particulièrement dans celle de la Joie. Est-ce que vous y êtes arrêté dans vos collections scientifiques?
Les forêts étant abondantes, je crois que nous sommes un canton, un des plus forestiers de Suisse. Et qui dit forêt dit champignons, qui dit pâturage dit champignons, qui dit champignons dit champignonneur. Et c'est bien le cas, effectivement, tout le monde dans la région s'intéresse aux champignons. Et je crois qu'on ne s'intéresse pas qu'aux chanterelles, mais à d'autres champignons aussi. Alors il y a des spécialistes, amateurs éclairés, inspecteurs forestiers, qui veulent approfondir leurs connaissances. Et de ce fait, ils ont effectivement fait une collection, ou désiré faire une collection, mais faire un herbier de champignons, c'est difficile. Alors on a eu la chance de se procurer un lyophilisateur, et aujourd'hui on lyophilise à tour de bras pendant toute l'année. On a débuté cela l'année dernière au printemps, et nous continuons, les congélateurs sont pleins, on lyophilise tout l'hiver, tout l'été, et puis on arrive gentiment à 500 ou 600 espèces différentes de la région. Et on pense bien continuer.
Et vous les coupez en tranches ou ils restent totalement entiers?
Non, ils restent parfaitement entiers, on les congèle à très basse température, d'abord au congélateur, puis à moins 60 degrés, et puis on les dessèche sous vide.
Ils conservent leur couleur?
Ils conservent leur couleur, leur forme, ils sont secs, mais ils ont leur forme originale. Ça marche pas pour toutes les espèces, mais pour la majorité, ça va bien. Disons.
Et leur parfum, ils le conservent?
Leur parfum, ils le conservent parce que nous les conservons nous-mêmes dans des bocaux fermés avec des indicateurs d'humidité. Et quand on ouvre un bocal, ça sent admirablement le champignon.
Et avant de passer à la recette, François Aguenat, comment est née cette passion pour les sciences naturelles?
Oh, je pense que c'est une... Je ne veux pas parler de moi, je pense plutôt à la région. C'était une région où les naturalistes naissaient comme de la mauvaise herbe. C'est vraiment un canton de naturalistes. Prenons le cas de Quiqueré, de Thurman, de Cressley. Bref, il y avait un engouement de la nature depuis la nuit des temps, pourrait-on dire, dans cette région.
Et vous arrivez à faire passer cette passion à travers vos élèves?
Espérons-le.
C'est une espérance.
C'est une espérance. Je crois que ça se concrétise, en tout cas chez certains. Mais il y a des personnes qui détestent les sciences naturelles, et pourquoi pas. Il y en a d'autres qui aiment ça, d'autres qui sont parfaitement indifférents. Mais je crois que la majorité des gens, quand même, sont sensibles aux choses de la nature.
Je crois qu'il faut le demeurer, comme l'a rappelé hier M. Farran, l'ennemi de la nature est quand même l'homme, et il faut peut-être sauvegarder tout ce qui est beau ici dans ce canton du Jura à travers la flore, la faune et certains végétaux.
Oh, je pense qu'il faut intégrer l'homme dans la nature et lui faire comprendre dans quel milieu il vit.
Merci François Guélan. Jocelyne Farine, merci d'être fidèle au rendez-vous de la recette, car vous êtes le porte-parole de la grand-mère de Cécile pour nous restituer une fois de plus une recette jurassienne et qui est très courue actuellement, car tout le monde téléphone et désire avoir et recevoir ces recettes par écrit, parce que même des jurassiens, j'en ai eu la confirmation hier par Madame Artaud, n'ont pas la possibilité de bien les connaître. Tout le monde dit, moi je fais ça, mais personne n'avait, disons, la véritable recette écrite. Alors c'est le moment ou jamais.
Merci Vera Florence. Aujourd'hui, mesdames, nous allons vous donner une recette vite faite. Puisque vous écoutez par à deux, il vous faudra ménager un peu votre temps. Et aujourd'hui, nous avons la firate, c'est-à-dire une sauce froide crue. Et c'est une très vieille recette qui date de 100 à 200 ans. Alors mesdames, à vos crayons. C'est donc une sauce vite préparée, comme je viens de le dire, et qui accompagne délicieusement les pâtes maison, comme les nouilles à la main, ou les knöpfli ou spätzli. Les ingrédients, 3 décilitres de crème fraîche, une cuillère à soupe de vinaigre, un œuf, une échalote ou un petit oignon au choix et une gousse d'ail. Vous fouettez énergiquement la crème fraîche avec le vinaigre et l'œuf. Ensuite, vous ajoutez l'échalote ou le petit oignon finement haché et également la gousse d'ail hachée. Ensuite, vous servez avec les pâtes et vous vous régalez.
Merci, Jocelyne Farine. Si vous, madame, ou même vous, monsieur, car maintenant il y a aussi les messieurs au fourneau, désirez cette recette, vous téléphonez au 021-21-75-77. Jocelyne Farine a fait en sorte que vous puissiez avoir la recette par écrit. Et je vous invite à enchaîner une belle chanson de Guy Béard, « L'avenir, c'était plus beau hier ».
L'avenir c'était plus beau hier, l'avenir aujourd'hui je m'y perds. Sur la machine du temps je vais remonter souvent, l'avenir c'était plus beau hier. Bien, nous allons faire marche arrière et revivre la vie à l'envers. Hier, demain c'était bien, nous allons revoir combien l'avenir c'était plus beau qu'hier. C'est bon rêver jadis, on allait vivre gratis. Comme tout allait s'arranger, on mourait le cœur léger. L'avenir c'était plus beau hier, nous allions éliminer la guerre. Pour nos enfants jamais plus ce que nous avions connu. L'avenir c'était plus beau hier. L'espérance n'est plus ce qu'elle était, on n'attend plus le soleil en été, ni le raisin en septembre. Alors à quoi bon attendre? L'avenir c'était plus beau qu'hier. Chaque matin c'était le grand soir, nos veillées brillaient d'espoir. C'était si bon, je te le jure, de se raconter le futur. L'avenir c'était plus beau qu'hier. Chaque fois qu'on manquait de lumière, on disait il fera jour, demain nous vivrons d'amour. L'avenir c'était plus beau qu'hier. Les études ça servait à quelque chose, on potassait ronça et sa rose. Nous étions les étudiants, notre avenir était brillant. L'avenir c'était plus beau qu'hier. Mais le futur c'est le fiancé, tu finis par l'embrasser. Même au milieu des orages, il viendra au mariage. Pas la peine de vivre dans le passé, non, hier quand on s'est déplacé. On ne peut, je te le dis, te rêver à aujourd'hui. Pas la peine de vivre dans le passé. L'avenir c'est l'avant ou l'aventure, voyageur du futur en voiture. Et demain comme à présent, nous dirons à nos enfants, l'avenir c'était plus beau qu'hier.
François Guenin, nous aurions encore dû parler de la collection préhistorique des grottes de Saint-Bray, mais le temps nous manque et j'aimerais qu'on aborde un tout petit peu la flore. Quelques spécificités de ce Jura. Je pense par exemple à cette région de buis qui est couverte de buis, effectivement.
Oui, la flore, évidemment, on pourrait en parler longtemps, mais je crois qu'elle se regarde essentiellement, elle ne s'entend pas, à moins qu'il y ait du vent dans les voiles ou dans les branches. Disons que, en résumé, pour le dire relativement rapidement, la flore jurassienne est assez importante et intéressante du fait de l'origine de cette flore. Vous parliez du buis. Eh bien, nous savons que le buis a une origine méditerranéenne. Il y a eu une sorte de migration de la végétation du sud de l'Europe en direction du nord. Eh bien, on a des témoins de cette origine à buis, justement. Nous pourrions aussi parler d'autres origines, l'origine de la flore alpine que l'on trouve sur les sommités du Jura, le Jasra, jusqu'au Rémeux, en passant par le Montéry. prenons le cas de la primevère au Ricol. Et puis on a des témoins des glaciations scandinaves, des grandes glaciations nordiques avec le bouleau nain ou Betula nana, j'adore ce nom latin d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça charmant. Et on le retrouve aussi bien aux étangs de la Gruère qu'au plein de Seigne et dans la plupart des étangs qui caractérisent les franches montagnes et certaines autres régions de la Joie, par exemple.
En la Joie, il y a une fleur que j'aime beaucoup, premier printemps, c'est la personneige.
La personneige que l'on appelle couramment en botanique la nivéole. Mais enfin, il y a une confusion qui est charmante, pourquoi pas. Eh bien, la nivéole est répandu à certains endroits, surtout où on trouve des immondices et des déchets humains. Je trouve en Haute-Ajoie, par exemple, régulièrement de la nivéole parmi les boîtes de conserve. Mais alors, dans un autre cadre, au bord du Doubs, on trouvera des nivéoles et des fritillaires dans un cadre beaucoup plus naturel et magnifique.
On pourrait cueillir un grand, grand bouquet de fleurs, n'est-ce pas, Vera Florence?
Oui.
Et l'offrir à tous nos auditeurs, nos auditrices. Et voilà, peut-être que vous avez, vous, autre chose à leur offrir.
Le temps de quelques notes et nous abordons quelque chose qui compte beaucoup ici dans le Jura. Une musique qui correspond vraiment au sujet dont je vais parler avec Pierre-Alain Gentil, qui est membre du comité SRT. Il y a des choses qui se passent ici dans le Jura, et surtout peut-être depuis que nous faisons cette parade en collaboration avec les SRT. Il y a une nouvelle situation en matière de médias électroniques, et le canton du Jura a quand même quelques idées là-dessus, Pierre-Alain Gentil.
Oui, tout le monde sait que les conditions légales qui régissent les médias électroniques ont changé. On va pouvoir faire prochainement des expériences de radio et de télévision locale à certaines conditions. Et même avant que vous veniez dans le Jura, on s'est intéressé au problème de la radio locale.
Vous remettez l'église au milieu du village.
Exactement. Alors, c'est les conditions qui sont fixées par une ordonnance du Conseil fédéral sont relativement précises. On prévoit que ces expériences dureront de 3 à 5 ans, que les acteurs ne devront pas agir dans un esprit commercial pur, que le rayon des émissions sera limité à 10 km. Enfin, il y a toute une série de dispositions. Et d'après les bruits de coulisses qui filtrent du Conseil fédéral, on estime ou on fait courir le bruit qu'il y aura à peu près 20 concessions qui seront distribuées pour l'ensemble de notre pays, d'où la déduction raisonnable qu'il y en aura une, en tout cas, pour le Jura. Ce qui a suscité, et tous les auditeurs jurassiens peuvent consulter aujourd'hui leur presse régionale, un certain nombre de projets de radio locale.
Alors, quelle est cette situation dans le Jura, Pierre-Alain Gentil?
Alors, la situation dans le Jura, c'est qu'il y a toute une vie locale, toute une vie régionale, qui n'est pas, naturellement, pas reflétée aussi abondamment qu'on le souhaiterait par les médias romans.
Ces jours, par exemple.
Ah, c'est une brillante exception qui confirme la règle, n'est-ce pas? Alors, il y a une situation intéressante parce que vraiment le Jura représente une entité dans laquelle on pourrait parfaitement développer un projet de radio locale ou de radio régionale.
Et il y a quand même un projet des associations culturelles jurassiennes qui est en examen actuellement.
Alors, parmi d'autres demandes, parmi certains projets privés, il y a un projet auquel la SRT Jura, mais d'autres associations culturelles aussi, que vous avez reçues ou que vous recevrez cette semaine, l'Université Populaire, l'Émulation, toutes ces associations culturelles se sont réunies pour étudier un projet de radio régionale qui pourrait refléter certaines valeurs que ces sociétés culturelles défendent en commun. Le droit à la culture, entendu dans un sens large, le droit à l'expression aussi, ce qui nous a conduit à élaborer un projet centré sur la vie régionale, projet pour lequel nous souhaiterions obtenir la collaboration des médias régionaux, notamment les journaux régionaux, que nous avons tenus au courant de nos démarches et de nos réflexions, et éventuellement aussi, pourquoi pas, avec la collaboration des autres médias électroniques, de la radio romande, par exemple.
Pourquoi ?
Et qui, elle-même, avait élaboré à l'époque une conception des radios locales. Les mauvaises langues disaient que c'était une riposte au projet de M. Schurmann ou de M. Schlumpf, plus exactement la riposte de M. Schurmann au projet de M. Schlumpf. On avait appelé ça la conception des fenêtres programmatiques, ce qui revenait à dire pratiquement que dans l'ensemble des émissions de la radio romande, on insérerait quelques moments, quelques grilles régionales réservées à l'expression des régions. Et alors nous allons prendre contact également avec la radio romande pour savoir si ce projet va demeurer dans les tiroirs ou bien si éventuellement, même avec la décision différente du Conseil fédéral, il sera possible de déboucher sur des réalisations concrètes.
Mais si Accord devait intervenir, quelle serait la couverture de ce projet, à savoir combien d'heures d'émission souhaitez-vous envisager dans cette radio locale? Car il est impensable d'envisager un 24 heures sur 24, par exemple.
Ah, bien sûr, pour des raisons financières, tout le monde connaît la situation financière des associations culturelles. Et ça n'est pas le but non plus, parce que si on veut faire une radio régionale, il n'y a pas dans le Jura de quoi alimenter un programme 24 heures sur 24 qui parlerait uniquement du Jura. Et notre projet vise un temps d'émission d'une heure et demie, qui pourrait être parfaitement alors complété par les prestations de la radio romande, les bulletins de nouvelles internationaux, nationaux, les émissions culturelles générales. La spécificité de la station régionale étant alors de compléter l'information des gens sur la vie de leur région, ce qui ne peut pas être fait par la radio romande dans la mesure où on pourrait le souhaiter.
Et si chaque canton voulait la même chose, il faudrait envisager autre chose encore. Pierre-Alain Gentil, comment avez-vous reçu Paradeux dans le Jura?
Alors, on l'a reçu, je crois, convenablement, mieux que le troisième programme, mais on a des promesses et on recevra la radio romande parfaitement d'ici la fin de l'année.
Merci Pierre-Alain Gentil et bonne chance. Bien, tout à l'heure, nous allons parler sur Radio Suisse Romande 2 d'économie et d'économie jurassienne avec des ouvertures sur l'emploi, sur la relance économique, sur le renouvellement du tissu industriel, sur l'agriculture, sur la recherche de diversification de la production agricole. Et cela sur Radio Suisse Romande 2 de 10h à 11h. Et ce matin, nous avons accueilli Jean-Louis Ress, conservateur du musée des Léman, François Guenin, professeur du lycée de Porrentruy, et puis bien sûr Pierre-Alain Gentil, membre du comité SRT. Je vous souhaite une très bonne fin de matinée à l'écoute.